Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons football et nous jouerons les prolongations après la victoire hier du Portugal 6-1 face à la Suisse et surtout après la qualification historique du Maroc qui a réalisé l'exploit d'éliminer l'Espagne. On pourrait passer toute l'émission à parler de cette victoire tant les réactions sont nombreuses, aussi bien au standard et surtout sur nos réseaux sociaux. Il y a par exemple Amadou d'Abidjan qui nous dit « Mais quel exploit, qui l'aurait cru, toutes mes félicitations à cette équipe marocaine qui est désormais la seule représentante de toute l'Afrique. Moïse, lui, nous écoute un Bougimaï en République démocratique du Congo. Il dit avoir explosé de joie à la qualification du Maroc en quart de finale. Le Maroc, dit-il, espoir de tout un continent, car ce n'est pas le Maroc qui gagne, mais c'est toute l'Afrique. Je vois déjà les Lions en demi-finale, affirme cet auditeur. Alors évidemment, vos pronostics nous intéressent. Dites-nous quelles sont les chances du Maroc de s'imposer face au Portugal et donc de continuer l'aventure. Mais on a également envie de vous entendre et d'entendre vos pronostics sur les autres affiches, Croatie-Brésil, Pays-Bas-Argentine et Angleterre-France, puisque depuis hier soir, on connaît, vous le savez, les 8 qualifiés pour ces quarts de finale. 33 9 693 693 70 et nos réseaux sociaux, vous les connaissez, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec des questions sur le massacre de Kishishe, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
Et merci de nous appeler de Kisangani. Vous avez plusieurs questions à poser à la rédaction de RFI.
Évidemment, monsieur Gomez. Alors, la semaine dernière à Kishishe, 272 personnes ont été massacrées. Et l'un des trois est accusé d'être derrière toutes ces tueries. Alors, M. Gomez, là, je me demande du coup, comment ce bilan a été dressé, hein, alors que la zone est sous contrôle des rebelles? Et quels sont les indices qu'il faut dire au gouvernement congolais que, évidemment, ce sont les rebelles d'un des trois qui sont derrière cette attaque.
Ouais, 272 morts, c'est le dernier bilan fourni par les autorités, alors qu'en fin de semaine dernière, le bilan officiel était de plus de 120 morts. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Kinshasa. La question de Dieu merci, elle est pertinente. 272 morts. Comment parvient-on à dresser ce bilan alors qu'effectivement, cette zone, actuellement, elle est contrôlée par les rebelles du M23?
Alors déjà, Juan, on peut rappeler que ce chiffre, il a été donné lundi soir par le gouvernement lors du point presse hebdomadaire du ministre de la Communication. À cette occasion, j'ai demandé comment les autorités avaient obtenu ce bilan. Donc Patrick Mouyaya a expliqué qu'il avait été consolidé ce bilan avec l'appui des communautés qui ont chacune fait le recensement des victimes. Chaque communauté a donné son bilan et les 272, c'est finalement la somme de ces bilans. Le ministre a reconnu qu'il y avait des difficultés à recouper tous les chiffres puisqu'actuellement, vous le disiez, hein, la zone est contrôlée par le M23.
Le M23 qui est donc accusé par Kinshasa d'avoir commis ces massacres. Quels sont les indices qui font dire au gouvernement qu'effectivement ce sont ces rebelles-là qui ont attaqué les populations?
Alors justement, parce que selon le gouvernement, la zone est sous le contrôle du M23. Il semblerait aussi que les témoignages qui ont été recueillis par certains médias et par les autorités évoquent des actions commises par les rebelles. C'est pour cela que le gouvernement dit que le M23, qui mène, je vous le rappelle, depuis plusieurs mois, une offensive dans cette région du Nord Kivu et plus particulièrement dans ce territoire du Rutshuru, est derrière cette attaque. Le M23 a démenti cela le week-end dernier dans un communiqué publié par ses services de communication.
Dieu merci, vous avez une dernière question.
Évidemment, alors, je suis quand même satisfait et là je me demande, le ministre de l'Industrie congolais, hein, M. Karl, est déjà d'un crime de guerre. Alors, je me dis, est-ce que la communauté internationale peut-elle réagir si ce massacre est déjà qualifié comme tel?
Crime de guerre, les propos sont du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui est d'ailleurs ancien gouverneur du Nord Kivu. La communauté internationale peut-elle réagir si ce massacre est qualifié comme tel, Pauline Azidi ?
Alors déjà, pour que l'on puisse qualifier ce qui s'est passé à Kishishe, hein, il faudra une enquête nationale ou internationale. La justice congolaise a déjà été saisie par les autorités. Pour la justice internationale, hasard du calendrier, la ministre congolaise de la justice était hier à La Haye pour un déplacement prévu avant les derniers événements. La Haye, je vous le rappelle, c'est une ville des Pays-Bas, mais c'est surtout le siège de la CPI, la Cour pénale internationale. À la tribune de la 21e Assemblée des États parties de cette CPI, la garde des Sceaux a déclaré qu'une partie de l'est du territoire est le théâtre de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de génocide, de crimes d'agression qui occasionnent des milliers de morts, des violences sexuelles, sans compter des déplacements massifs de population. Elle a demandé à ce que le procureur de cette CPI se rende en RDC. Interrogée ensuite par notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa, la ministre a ajouté « Il faut que les enquêtes commencent, enquête générale et plus particulièrement pour le massacre de Kishishe. » Alors, depuis le retour du M23 l'an dernier, la CPI n'a actuellement annoncé aucune enquête sur de possibles crimes relevant de sa compétence.
Et la demande de la RDC d'enquêter justement sur ces crimes n'a suscité pour l'instant aucun commentaire public du bureau du procureur de la CPI, même si le procureur a indiqué en début de semaine qu'il souhaitait se rendre en visite justement en République démocratique du Congo dans le courant de l'année prochaine. Dieu merci, a-t-on répondu à vos questions ?
Évidemment, évidemment.
Bon, bah merci à vous, merci de votre confiance et continuez à nous écouter et vous nous rappelez évidemment dès que vous avez des questions pour mieux comprendre l'actualité. Pauline Azidi, bonne journée à Kinshasa, merci d'avoir été avec nous. Il est 9h17 à Paris. D'autres questions à la rédaction, on va parler d'un sujet bien plus léger, on va parler football, des Bleus et en l'occurrence d'Olivier Giroud. Bonjour Romain.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous appeler de Centrafrique. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui Juan, dimanche contre la Pologne, Olivier Giroud a marqué son 52e but de l'histoire. Il est devenu le meilleur buteur, le premier meilleur buteur de l'histoire de la sélection française.
Oui.
Après un passage à vide avec l'équipe de la France. Comment expliquer ces retours fracassants de l'attaquant ?
Retour fracassant d'Olivier Giroud qui est effectivement entré dans l'histoire de l'équipe de France en devenant le meilleur buteur de la sélection. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Antoine, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RFI à Doha. 52 buts, c'est un record qui était détenu depuis des années par Thierry Henry. Lui il en était à 51, maintenant on est à 52. C'est monumental évidemment, d'autant que, et je parle sous votre contrôle Antoine Grenier et Romain l'évoquaient à l'instant, il y a encore quelques mois, la participation d'Olivier Giroud au Mondial était loin d'être acquise. Il y avait comme un passage à vide effectivement.
Ah oui, depuis l'Euro 2021, en fait, Olivier Giroud, champion du monde 2018, et qui avait, même s'il n'avait pas marqué en Russie, avait été important, il avait connu un déclassement avec l'équipe de France, un déclassement très clair après l'Euro et l'échec en huitième de finale. Il n'était plus appelé qu'épisodiquement par Didier Deschamps, qui laissait entendre que si Karim Benzema, qui avait été rappelé pour l'Euro après 6 ans d'absence, si Karim Benzema était appelé en équipe de France, bah, il pouvait pas être avec Olivier Giroud. C'était un choix de vie de groupe, assumé alors le sélectionneur de l'équipe de France. Donc Olivier Giroud était effectivement cantonné à des petits passages épisodiques. Par exemple, il avait été titulaire contre la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud en amical, puis il avait longtemps disparu, puis par exemple il n'avait pas joué la Ligue des Nations, et puis finalement après avoir donné beaucoup de gages de sa capacité à n'être que le remplaçant de Karim Benzema, Olivier Giroud a fini par être appelé par son sélectionneur dans la liste des 25 pour la Coupe du Monde, et puis bah, on sait ce qu'il est advenu. Karim Benzema s'est blessé, donc Olivier Giroud est revenu à la pointe de l'attaque. Il a inscrit un doublé contre l'Australie lors du premier match de l'équipe de France, qui lui avait permis d'égaler Thierry Henry. Et puis ce but face à la Pologne, qui est son 52e, qui est un record absolu pour lui. Et c'est une performance, évidemment, qui va rester dans l'histoire.
Oui, effectivement. Olivier Giroud, qui a su se rendre indispensable, d'où ses propos de Didier Deschamps, le coach, hein, titulaire indispensable, a-t-il dit en parlant d'Olivier Olivier Giroud. On peut insister, Antoine Grenier, tout de même, sur le parcours d'Olivier Giroud et cette ascension qui, mine de rien, est plutôt atypique.
Oui, parce que on parle évidemment de Olivier Giroud qui évolue à l'heure actuelle à l'AC Milan, donc en Serie A italienne, qui est passé par la première ligue anglaise, donc parmi les meilleurs championnats du monde. Mais il faut remarquer aussi qu'Olivier Giroud, c'est le seul joueur de l'équipe de France à avoir connu le national, la troisième division en France. Il a commencé à Grenoble en Ligue 2, puis il a fait un passage par Istres, donc en national, et puis ensuite son ascension, elle a été quasi linéaire, mais elle a commencé sur le tard. Il est arrivé en Ligue 1 seulement à 24-25 ans, Olivier Giroud. C'est très très tard, surtout quand on le compare à d'autres joueurs, et notamment à un Kylian Mbappé qu'il fréquente en attaque, ou à Karim Benzema qui, eux, ont joué dans les meilleurs clubs, ont joué la Ligue des Champions, ont été en mesure de la gagner, et l'ont gagné d'ailleurs pour Karim Benzema. Olivier Giroud, c'est une sorte de phénix en fait également, parce que quand il arrive dans un grand club, parfois, très souvent d'ailleurs, il commence par réussir, puis il perd sa place, puis il la récupère avant de finir par partir. C'est ce qui lui est arrivé à Arsenal et Chelsea. Bref, Olivier Giroud, c'est un modèle de résilience permanente, et ce record de l'équipe de France, c'est aussi la récompense d'un parcours, vous le disiez, à la fois atypique et à la fois fait un peu au courage.
Oui, et ce record, on en parlera tout à l'heure avec les auditeurs en deuxième partie d'émission, parce qu'on va évidemment se projeter sur les quarts de finale, et notamment ce France-Angleterre, samedi soir, à suivre évidemment sur les antennes africaines de RFI. Antoine Grenier, on vivra ce quart de finale avec vous.
Bien sûr, et avec Frédéric Suteau également qui le commentera, et on verra si l'équipe de France réussit à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite, puisqu'après 2018, ça serait la deuxième fois cette année, après avoir atteint les quarts de finale trois fois, puisque 2014, 2018 et 2022, face à une équipe d'Angleterre d'ailleurs que Olivier Giroud connaît bien, puisqu'il a longtemps évolué en Angleterre pendant près de 10 ans, donc tous les joueurs qui sont en face de lui, il les a côtoyés en première ligue.
Romain, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, c'est super pour Antoine Grenier. Bonne journée pour lui à Doha, au Qatar.
Oui, bonne journée à Antoine Grenier à Doha, et bonne journée à vous, Romain, à Bangui. Merci d'avoir été avec nous, 9h23 à Paris. On va parler des déboires de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain secoué par un scandale de corruption présumé. Charlie, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Charlie. Vous avez plusieurs questions, nous vous écoutons.
Merci de me donner encore cette opportunité. Et ma question, la première, est la suivante. L'ANC a refusé de voter l'ouverture d'une procédure de destitution de Cyril Ramaphosa. C'était ce lundi ici. Mm-hmm. Est-ce que cela signifie que le président dispose toujours son large soutien au sein de l'ANC et qu'il sera reconduit à la tête du parti dans 10 jours?
Ouais, disons,
c'est vrai au 20 décembre.
Ouais, il y a le congrès de l'ANC prévu effectivement dans 10 jours. Marianne Séverin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Afrique du Sud au laboratoire des mondes africains à Sciences Po Bordeaux. Alors effectivement, on a vu cette semaine l'ANC affirmer son soutien total au président de la République, affirmant que les députés du parti au pouvoir ne voteront pas la procédure de destitution prévue la semaine prochaine, puisqu'il y a un vote prévu exactement mardi prochain. Ça veut dire que la famille politique de Cyril Ramaphosa le soutient à 100% à l'heure actuelle ?
Non, il n'y a pas de soutien à 100%. Parce qu'en fait, il a des concurrents. Et il y a deux concurrents en particulier, dont une femme politique qu'on connaît, puisque c'est une ancienne opposante de Cyril Ramaphosa lors de l'élection à la présidence de l'ANC en 2017. Donc, c'est Nkazama Dlamini Zuma, ex-épouse de Jacob Zuma, accusée de corruption. J'insiste bien sur ce fait. C'est qui demande la démission de Cyril Ramaphosa, et le clan de ces dames a expliqué que lors du prochain vote à l'Assemblée nationale, ils iront voter avec l'opposition.
Ah oui.
Et le deuxième.
Donc ça veut dire, attendez Marianne Séverin, oui, les auditeurs qui découvrent peu à peu justement cette affaire et surtout la vie interne de l'ANC, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'unanimité pour soutenir le président Cyril Ramaphosa.
Non, en fait, c'est une tactique politique. Et la deuxième personne, c'est très simple à comprendre. La deuxième personne qui est contre Cyril Ramaphosa n'est autre que son ancien ministre de la Santé, accusé de corruption. En fait, tous ceux qui sont contre Cyril Ramaphosa sont, comme par hasard, accusés de corruption. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une tactique politique pour amoindrir le pouvoir de Cyril Ramaphosa et le bloquer au niveau du Parlement. Et forcément, vous imaginez bien que pour les prochaines élections qui vont arriver dans quelques jours, si Cyril Ramaphosa n'est pas reconduit, ça ne fera que leurs affaires.
Oui, alors avant d'arriver au Congrès, puisque justement la question de Charlie portait sur le Congrès, il y a donc ce vote de la semaine prochaine. À vous entendre, une partie de l'ANC va voter l'ouverture d'une procédure de destitution. C'est bien ça, Marianne Sévrin ?
Oui,
oui. Quelles sont les chances, justement, d'aller jusqu'au bout de cette procédure ?
Alors, je vais rester extrêmement prudente, mais je pense que ce vote va échouer. Ils n'auront pas assez de voix, mais ça montre la fracture, en fait, au sein de l'ANC. Alors, elle ne date pas de Cyril Ramaphosa, elle date, de 2008, lors de l'élection de l'ancien... la bagarre fratricide entre Jacob Zuma et l'ex-président Thabo Mbeki.
D'accord. Marianne Sévrin, ce congrès, dans 10 jours, quelles sont les chances pour Cyril Ramaphosa de remporter un second mandat à la tête du parti ?
Alors, là aussi, je reste prudente. Normalement, il devrait passer. Il devrait passer pour... parce que les prétendants à la présidence de l'ANC ont tous des casseroles de corruption. Donc, en fait, ne pas avoir Cyril Ramaphosa à la tête du parti pourrait faire exploser le parti, mais pourrait faire exploser aussi l'Afrique du Sud. Parce que la personne qui va le remplacer, imaginons le scénario, Cyril Ramaphosa n'est pas réélu à la présidence, ce qui signifie que dans quelques mois, on va le pousser à la démission de la présidence du pays. La personne qui est censée le remplacé n'est autre que le vice-président du parti et du pays. Or, ce monsieur est aussi accusé de corruption.
Oui, donc effectivement, donc les prochains mois s'annoncent particulièrement tendus au sein de l'ANC, d'autant qu'à terme, il y a une élection, les élections générales prévues dans un peu plus d'un an, en 2024. En tout cas, cette dernière affaire qui secoue le président sud-africain est un coup dur hein, quand même pour l'ANC. Une fois de plus, le parti de Nelson Mandela est mis à mal. Charlie, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, on a répondu à mes questions, mais je voulais quand même poser une deuxième question pour, concernant les personnalités au sein du parti. Est-ce qu'elles pourraient être des concurrents sérieux ? Parce que là, je prends l'exemple de Sisulu, de la fille d'Albert Sisulu. Celle-là, elle n'est pas pointée comme alors, étant quelqu'un qui est plongé dans la corruption.
Alors, y a-t-il des personnalités qui pourraient prendre la relève ? Marianne Sévrin, en 30 secondes. Hein.
Non.
Personne. Bon, bah voilà,
non,
ça mérite d'être clair.
Corruption et mauvaise gouvernance, en parlant justement de cette dame qui s'appelle Lindy Wessisoum.
Bien. Bah écoutez, merci infiniment Marianne Sévrin. Vous avez suivi les explications de notre spécialiste de l'Afrique du Sud au Laboratoire des Mondes Africains à Sciences Po Bordeaux. Vous souhaitez peut-être réagir et nous dire ce que vous inspire la classe politique et notamment les dirigeants de l'ANC en Afrique du Sud. On en parle évidemment vendredi dans la Libre Antenne. Charlie, merci de nous avoir appelés. Merci de vous intéresser à l'actualité, notamment sud-africaine. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique d'RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient dans 10 minutes avec vos pronostics. On va parler football et on va surtout s'intéresser au quart de finale de la Coupe du Monde. A tout de suite.